Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 23 mai 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal suivi d'un commentaire politique consacré aux élections présidentielles syriennes. Syrie, Assad, l'avertissement russe. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Bonjour à la une de cette édition, le secrétaire général du mouvement du djihad islamique de la Palestine adresse une lettre de félicitations aux leaders de la révolution islamique à l'occasion de la victoire de la résistance palestinienne face aux occupants sionistes. Des échauffourées ont éclaté entre la police britannique et les manifestants pro-palestiniens qui s'étaient rassemblés dans le centre de Londres en solidarité avec le peuple palestinien. Et puis les convois de ravitaillement de la coalition dirigée par les États-Unis ont été attaqués à trois endroits différents dans le sud de l'Irak. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le secrétaire général du mouvement du djihad islamique de la Palestine a adressé une lettre de félicitations aux leaders de la révolution islamique à l'occasion de la victoire de la résistance palestinienne face aux occupants sionistes. Dans sa lettre au leader de la révolution islamique d'Iran, l'ayatollah Sayyed Ali Khamenei, Ziad al-Nakhala a déclaré que la bataille de 11 jours entre Israël et la résistance dans la bande de Gaza avait abouti à la défaite du régime de Tel Aviv. Il a déclaré que la victoire avait aidé les Palestiniens à paraître plus puissants aux yeux de leurs ennemis. Nakhala a déclaré que le soutien sans faille et sans réserve de l'Iran avait joué un rôle clé dans le succès de l'opération d'épée d'Al-Quds. Le président du Parlement iranien a déclaré que l'Agence internationale de l'énergie atomique, IAEA, n'a pas le droit d'avoir accès aux images et aux informations enregistrées par l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran. Mohammad Borrell Ghalibaf a déclaré que le délai de 3 mois fixé par l'Iran expirerait le 22 mai. En conséquence, a-t-il ajouté, l'agence n'a pas le droit d'accéder aux images et aux informations enregistrées par les caméras iraniennes. En février, l'Iran et l'agence sont parvenus à un accord lors d'une visite à Téhéran du directeur général de l'IAEA, Raphaël Grossi. Dans le cadre de l'accord, il a été convenu que l'Iran enregistre les données relatives à certaines de ses activités nucléaires, les conserve pendant 3 mois. Les deux parties ont convenu que l'Iran partagerait les données avec l'IAEA si les sanctions contre le pays étaient levées dans 3 mois. Sinon, comme convenu, l'Iran effacerait les données pour toujours. Pendant ce temps, Grossi doit participer à une conférence de presse plus tard dans la journée. L'ancien vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires arabes et africaines a qualifié la récente victoire du peuple palestinien comme un facteur qui a stabilisé l'équilibre entre le soft power et le hard power de l'Iran et a déclaré « Cela a montré que l'Iran est un acteur indispensable dans la région et ils doivent donc parvenir à un accord avec l'Iran ». Hossein Jaberi Ansari, qui s'est exprimé samedi soir sur la page Moyen-Orient sur la plateforme du Clubhouse, a ajouté, je cite, « La question palestinienne, contrairement à ce qui a été proposé dans le cadre de la solution de deux États, n'est pas un différend frontalier, mais une question d'identité. Certaines évolutions internationales, comme l'élection de Biden aux États-Unis, et certaines évolutions régionales, comme les récents changements au Yémen, avaient déjà abouti à la consolidation du pouvoir de l'Iran dans la région. La victoire de Gaza a également contribué à la stabilisation de la position de l'Iran en tant qu'acteur important dans la région, a-t-il souligné. Les troupes israéliennes ont de nouveau attaqué des manifestants palestiniens dans le quartier de Sheikh Jarrah à Al-Quds occupé. Plusieurs Palestiniens ont été blessés dans les violences. Les manifestants s'étaient rassemblés pour exiger la fin du siège du quartier. Le quartier de Sheikh Jarrah a été le théâtre de la répression barbare des forces israéliennes contre les manifestants palestiniens au cours des dernières semaines. Les tensions ont monté dans la région à cause des projets usurpateurs du régime d'expulser un certain nombre de familles palestiniennes pour faire place aux colons israéliens. Les autorités de la bande de Gaza évaluent les dommages causés aux bâtiments résidentiels par 11 jours de frappes aériennes et de bombardements israéliens sur le territoire palestinien assiégé. Selon les chiffres publiés par les responsables palestiniens, plus de 1100 bâtiments ont été complètement rasés lors de la campagne de bombardements meurtriers israéliens. Selon eux, 900 bâtiments ont également été gravement endommagés et restent irréparables, tandis que 15 000 autres ont subi des dommages à divers degrés. Les autorités palestiniennes affirment que les bureaux du gouvernement dans la bande de Gaza publieront également la demande d'enlèvement des décombres. Ils disent qu'ils font face à un manque de fonds d'équipement dans leurs travaux d'enlèvement des gravats. Des échauffourées ont éclaté entre la police britannique et les manifestants qui s'étaient rassemblés dans le centre de Londres en solidarité avec le peuple palestinien. La police a arrêté un certain nombre de manifestants après s'être rassemblés devant l'ambassade d'Israël pour exprimer leur colère face aux crimes du régime de Tel Aviv contre les Palestiniens. Scandant Palestine libre, ils ont appelé à la fin de l'occupation israélienne. Ils ont soutenu qu'Israël est un néocolonialiste. Pendant ce temps, des manifestations similaires ont eu lieu dans d'autres parties du monde pour soutenir les Palestiniens. Les gens ont organisé des rassemblements dans la ville américaine de San Francisco, la capitale libanaise, Beyrouth, ainsi qu'à Paris, manière de célébrer la victoire des Palestiniens face à la récente agression meurtrière israélienne contre la bande de Gaza assiégée. Des convois de ravitaillement de la coalition dirigée par les États-Unis ont été attaqués à trois endroits différents dans le sud de l'Irak. Les convois logistiques ont été visés par des bombes en bordure de route dans les provinces de Moutana, Radicia et Babil. Les attaques auraient endommagé les véhicules mais n'ont fait aucune victime. Les incidents se sont produits quelques heures après qu'une explosion a ravagé un autre convoi de ravitaillement dans la province de Nasiriyah. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque. Les attaques contre les forces américaines et leurs convois de ravitaillement en Irak se sont multipliées ces derniers mois dans un climat anti-américain accru. L'escalade fait suite à l'assassinat par les États-Unis d'un très haut général iranien anti-Daesh et d'un haut commandant irakien près de Bagdad en janvier de l'année dernière. Autre thème, l'armée yéménite affirme avoir abattu un autre avion d'espionnage appartenant à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. Le porte-parole de l'armée, Yahya Sari, a déclaré que l'avion avait été abattu par les défenses aériennes. Il s'agit du deuxième avion de reconnaissance saoudien touché par les forces yéménites ces derniers jours. Vendredi, l'armée yéménite a annoncé avoir abattu un drone appartenant à l'Arabie saoudite au-dessus de la zone frontalière de Najran avec un missile solaire. Les yéménites ont riposté à la guerre menée contre leur pays par l'Arabie saoudite et ses alliés depuis mars 2015. L'agression a tué des dizaines de milliers de yéménites, pour la plupart des civils, et en a déplacé des millions d'autres. Enfin, Damas a fermement condamné la déclaration du ministère français des Affaires étrangères sur l'élection présidentielle en Syrie. Le ministère syrien des Affaires étrangères a déclaré que l'élection était une affaire syrienne souveraine par excellence et qu'aucune partie étrangère n'avait le droit de s'y ingérer. Le ministère syrien a souligné que seul le peuple syrien avait le dernier mot en la matière. La réaction intervient suite à des allégations avancées par un porte-parole du ministère français des Affaires étrangères qui a qualifié l'élection présidentielle syrienne d'invalide et d'illégale. Samedi, les expatriés et réfugiés syriens ont lancé le vote pour l'élection présidentielle syrienne prévue la semaine prochaine. Les rapports indiquent une forte participation des électeurs dans les bureaux de vote des ambassades syriennes à travers le monde, y compris à Paris. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Syrie, Assad, l'avertissement russe. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a fait part des plans terroristes en Syrie pour organiser et mener des opérations chimiques dans ce pays. Zakharova a écrit dans un communiqué publié ce vendredi par le ministère russe des Affaires étrangères, « Selon des informations reçues d'une source fiable, le groupe terroriste Front al-Nusra, actif en Syrie, se prépare à effectuer une autre provocation avec l'emploi de produits chimiques impliquant les casques blancs. Elle a ajouté que ces groupes avaient pour objectif d'utiliser des produits chimiques dans la zone de désescalade d'Idlib dans le nord du pays contre des civils pour mettre ensuite la responsabilité sur le gouvernement syrien. Zakharova a déclaré qu'en raison des changements dans les mesures opérationnelles, ces personnes ont eu recours à des tactiques d'attaque chimique à la suggestion de leurs opérateurs étrangers. Il a également ajouté, alors que le gouvernement syrien est à la veille de nouvelles élections présidentielles cruciales ce 26 mai, les menaces avec l'emploi de méthodes sales ne font qu'augmenter. À cet égard, nous espérons que la divulgation des informations ci-dessus contribuera à perturber ces programmes criminels et à empêcher la mort de civils innocents. Les casques blancs prétendent être une organisation bénévole d'aide et de sauvetage des civils dans les zones de guerre. Pourtant, selon le gouvernement syrien, ce groupe soutenu par l'Occident est en lien avec des terroristes extrémistes et accusé d'avoir mené une guerre du renseignement contre Damas. Le processus de l'élection pour les Syriens vivant à l'étranger a déjà commencé ce jeudi 20 mai dans la plupart des pays. À Téhéran, les Syriens vivant en Iran ont participé jeudi à l'élection présidentielle syrienne en se rendant à l'ambassade de leur pays. D'autre part, l'agence de presse officielle syrienne SANA rapporte que des Syriens vivant en Allemagne se sont rassemblés devant l'ambassade de leur pays à Berlin pour condamner l'action des responsables allemands privant les Syriens de leur droit de choisir et de déterminer le sort de leur pays. Les participants à ce rassemblement, mettant l'accent sur leurs principes et valeurs nationaux, ont déclaré que le sort de la Syrie ne sera décidé que par les Syriens. Ils ont qualifié la décision des autorités allemandes de violation des lois et principes internationaux. L'élection présidentielle syrienne devrait avoir lieu le 26 mai. Trois candidats se font face, dont l'actuel président syrien Bachar al-Assad.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler des crimes commis par Israël contre la Palestine et particulièrement de la France. En effet, malgré l'interdiction des rassemblements en France, des dizaines de milliers de Français ont crié leur colère contre le crime commis par Israël contre la Palestine. Un bilan provisoire qui fait état de 140 morts, dont 40 enfants. Alors, les forces de l'ordre en France n'ont pas pu faire grand-chose. Des jets de projectiles, des gendarmes blessés, des jets de gaz lacrymogènes et beaucoup d'arrestations, donc qui a fait beaucoup de bruit, donc n'ont pas empêché des Français à crier leur haine contre les tensions qui règnent en Palestine occupée. Voilà, alors la situation est très grave et trop importante même pour que les Français se taisent. Voilà. Alors voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert des questions internationales, qui est avec nous depuis Paris. M. Hugon, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs et à toute l'équipe.
Un plaisir de vous recevoir. Un grand bonjour également à M. Arnaud Develet, juriste international et expert des questions internationales, qui est avec nous depuis Damas. M. Develet, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à l'équipe de Page TV, bonjour aux auditeurs et bonjour à M. Hugon.
Un plaisir d'être avec nous, et donc pour nous d'être avec vous, bien sûr. Et ma première question va s'adresser à M. Philippe Hugon depuis Paris. Alors, M. Hugon, est-ce qu'on peut dire vraiment que la France, le gouvernement français est complice dans ce qui se passe en Palestine occupée, les crimes commis par Israël contre la Palestine, car les Français, enfin, le gouvernement français ne laisse pas les manifestants pour de crier leur colère et leur haine contre les crimes commis par Israël?
Oui, ben, il est clair que la France collabore avec Israël sur les questions de sécurité nationale d'Israël. Depuis des dizaines d'années, il n'y a rien de très nouveau dans cette politique menée par la France. Quant à interdire des manifestations qui défendent les principes même de l'existence des territoires palestiniens, moi je trouve ceci assez scandaleux. On autorise des tas de manifestations dans des tas de domaines différents. On sait très bien que dans ces manifestations, il y a quelquefois des éléments perturbateurs, mais pas une raison suffisante pour interdire une manifestation. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une décision politique de vouloir interdire et de museler une fois de plus les Palestiniens. Mais ceci ne résout pas les problèmes. On a l'habitude en France de faire l'autruche et de se cacher, et de se voiler la face, de se cacher les yeux devant une situation qui n'est plus contrôlable aujourd'hui. Donc je pense aujourd'hui qu'il est nécessaire que la France revoie sa politique étrangère et soutienne au contraire un processus de paix envers Israël et les Palestiniens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et depuis 60 ans maintenant, eh bien aujourd'hui, on n'a pas avancé d'un centimètre sur ce dossier, et Israël ne désire absolument pas trouver un processus qui permettrait d'apporter la paix dans la région.
Tout à fait. Merci. Monsieur Develet, alors ma question va s'adresser à vous. Alors, le fait d'interdire les rassemblements en France, bien sûr, il y a cette crise sanitaire et les lois sanitaires qui empêchent toute manifestation en France. Mais on a une façon très particulière de réagir face à ces manifestants qui manifestent contre Israël. Qu'en pensez-vous?
Il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand vous dites que les manifestations sont interdites à cause de la crise sanitaire, il y a eu des manifestations autorisées durant la crise sanitaire. Sauf que ce sont des manifestations où, en termes de narratif, cela procède d'une forme d'ingénierie sociale dont profite le gouvernement. Donc, c'est tout à fait quelque chose à souligner. Maintenant, en ce qui concerne l'interdiction prononcée par le ministère de l'Intérieur concernant les manifestations pro-palestiniennes, il faut garder à l'esprit que tout ça a ses origines suite à ces manifestations avaient été extrêmement soutenues et avaient embarrassé le gouvernement français de l'époque. Et on sait que la ministre de la Justice de l'époque, Madame Aliénari, avait emboîté le pas aux associations sionistes en France dans leur tentative d'égaliser, de mettre une équivalence sémantique et juridique entre l'antisionisme et l'islam. Donc, de facto, cela a permis au pouvoir politique en France, sous l'influence de ces lobbies, de pouvoir trouver un tour de passe-passe en mettant l'équivalence entre les manifestations à venir, donc celle de 2014, lorsque l'État sioniste avait attaqué la bande de Gaza, où à l'époque, sous le prétexte de la juive avait attaqué à Sarcelles une manifestation pro-palestinienne, on voit aujourd'hui que c'est ce précédent que Darmanin a utilisé pour prévenir en amont toute manifestation pro-palestinienne sur le pays. Mais ce que cela révèle, c'est que la France n'est pas neutre. La France, de par sa classe politique tout bon confondu, collabore effectivement activement avec les passionnés, que ce soit pour des questions géopolitiques, que ce soit pour des questions presque idéologiques, et que ce soit pour des questions de vente d'armes. N'oublions pas que l'un des plus gros exportateurs de vente d'armes en France, la famille Dassault, a fourni les passionnistes en chasseurs depuis des décennies. Et d'autres systèmes de défense militaire de la mer générale. Donc il y a des gros enjeux sur plusieurs axes qui fait que la France aujourd'hui, en Occident, est probablement le pays le plus sionisé après les États-Unis.
Oui. Monsieur Hugon, est-ce que vous êtes d'accord avec la prise de position de Monsieur Develay quand il parle d'une France qui est plus proche d'Israël que les autres pays de l'Union européenne?
Ah ben oui, là, de toute façon, il est clair qu'aujourd'hui, la France est très, très proche d'Israël. Elle l'a toujours été, si vous regardez bien, puisqu'on s'est toujours rangé derrière les positions états-uniennes. Moi, je garde quand même une lueur d'espoir pour les années qui viennent, puisque je pense qu'il sera de plus en plus difficile pour Israël de cacher ses crimes et pour l'Union européenne, les États-Unis, la France, de pouvoir défendre des positions qui deviennent indéfendables. Alors on parle de régulièrement de personnes tuées dans la bande de Gaza. Il est vrai que Gaza est un camp de concentration à ciel ouvert. Donc comment la communauté internationale peut tolérer une chose pareille? Alors évidemment, Israël fait toujours jouer cette culpabilité dont elle joue d'ailleurs depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est quelque chose, cette culpabilité qui va disparaître puisqu'elle est surtout générationnelle, puisque plus on avance dans le temps et moins les Israéliens pourront utiliser comme excuse ce problème de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils perdent maintenant toute crédibilité sur la scène internationale et il faudra bien qu'Israël change sa position en politique étrangère, puisque si elle ne le fait pas, Israël n'existera plus dans 20 ans, tout comme n'existera plus dans 20 ans les États-Unis sous la forme que l'on connaît actuellement. On voit déjà des États comme la Californie et le Texas qui demandent leur indépendance, puisqu'il y a aux États-Unis une grande diversité culturelle, et c'est un pays qui devra se fractionner, certainement sous une sorte de confédération, mais qui se fractionnera en plusieurs entités. Et c'est quelque chose qui, avec les difficultés économiques, font qu'ils ne pourront plus soutenir Israël comme ils le font, et la France, qui est un pays en faillite financière, ne pourra plus continuer encore très longtemps à soutenir Israël comme on le fait actuellement. Il faut savoir qu'en France, on a des avions de chasse dont la moitié ne sont plus en état de vol parce qu'on n'a pas de quoi acheter des pièces détachées d'avions, ce qui est une situation totalement ubuesque de devoir une chose comme ça pour un pays qui se prétend être une grande puissance mondiale. Donc tout ceci fait beaucoup rigoler aujourd'hui, et on va assister dans les 10 ans qui viennent à des bouleversements que l'on n'imagine même pas aujourd'hui sur la scène internationale. Et si Israël, je dis bien, ne change pas sa position, Israël est condamné à disparaître.
Oui. Arnaud Develay, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Hugon quand il parle de la France qui ne devrait pas écouter comme avant Israël? Alors, qui dit écouter Israël dit écouter les États-Unis. Donc, Macron va continuer d'accepter aveuglément ce que Israël et les États-Unis lui dictent?
Écoutez, ce n'est pas tant une question de personne, c'est une question de réseau en France. La France fonctionne au travers des réseaux qui la contrôlent. Et le réseau sioniste, parmi ces réseaux, est un réseau très puissant en France. M. Hugon le soulignait, à l'exception de la parenthèse gaulliste, la pénétration a été systématique et omniprésente dans les institutions. Vous ajoutez à cela la propension de certains politiques français à vendre les intérêts bien compris du pays pour promouvoir leur fière guerre, et vous avez un cocktail désastreux. Là où je partage le constat de M. Hugon sur l'évolution en Occident des sociétés de manière générale, que ce soit au niveau démographique, au niveau culturel, je ne partage pas son optimisme dans le sens où je pense que nous sommes en présence d'une reprise en main qui verra quelque part un narratif imposé en Occident, peut-être sous couvert bien sûr de la crise sanitaire, où certains réseaux, pour pouvoir maintenir leur contrôle, essaieront de transférer, si je puis dire, la réalité sur le terrain tel qu'elle existe à Gaza, en Occident, justement. C'est ce que je vois, moi. Et d'ailleurs, Éric Zemmour, le polémiste français, ne s'en est pas privé de l'expliquer. Il a écrit même un livre en 2016 qui s'appelle « Les suicides français », dans lequel il fait référence à ce qu'il appelle, lui, je cite, des enclaves islamisées, où il laisse entendre qu'avec l'aide des conseillers militaires israéliens, l'armée française a mis au point un plan qui répond au nom de code RONCE. Donc le protocole est en place. Tout ce qu'il leur faut maintenant, c'est de faire monter la sauce et utiliser la stratégie de la tension. Et à l'aune peut-être des élections, ce qui allait juger utile par les vrais tenants du pouvoir en France, le soir de l'élection de Marine Le Pen, on pourrait avoir une explosion sécuritaire, sociale à travers tout le pays, qui ensuite justifierait l'intervention de l'armée, et donc se faisant la fin des libertés civiles en France, mais toujours sous contrôle sioniste. Parce qu'en fait, on passe d'une période dite du socialo-sionisme à une période qui sera dénommée le national-sioniste. Mais à la fin, en fait, ça reste une opération sous contrôle sioniste. La France, bien compris, les intérêts français bien compris, n'existent plus en tant que tel.
Très juste. Monsieur Hugon, votre réaction, je vous prie.
Oui, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, malheureusement. Je pense que c'est tout à fait juste. Mais moi, je garde toujours, comme je vous le disais, cette lueur d'espoir. Et c'est un élément que néglige totalement Israël. C'est l'évolution de la société palestinienne. Donc, s'ils avaient affaire, il y a quelques dizaines d'années, à des éleveurs, à des gens qui n'avaient pas fait d'études et sur lesquels ils avaient une mainmise assez facile, ce ne sera plus le cas dans les prochaines années, puisqu'on a maintenant des Palestiniens qui sont des universitaires, qui sont des scientifiques, qui sont... Et moi, ce que je crains le plus maintenant, ça va être la radicalisation d'une nouvelle génération de Palestiniens, et qui pourront peut-être utiliser contre Israël des armes beaucoup plus dangereuses que ce qui est utilisé aujourd'hui. Et Israël, quelque part, aura cherché des ennuis dans le sens où ils n'auront pas essayé de développer un processus diplomatique et un processus de paix qui permettra de faire avancer la situation. Et comme je vous le disais, j'ai cette lueur d'espoir dans le sens où je souhaite que la classe politique israélienne change, bien que j'ai malheureusement beaucoup de résistance à le croire, mais je le souhaite malgré tout, de façon à ce qu'on trouve une solution durable dans la région.
Oui, c'est très peu probable que Israël trouve une solution pacifique dans ces tensions. Monsieur De Vollet, pour quand même terminer, on a l'impression que le gouvernement français ignore totalement, par exemple, ces 140 morts, dont 40 enfants, et ignore les cris donc, des manifestants contre ces crimes commis par Israël.
Alors d'abord, permettez-moi de rectifier, on n'est pas à 140 morts, on a dépassé le cap des 200 morts maintenant, oui. Déjà, en une semaine d'offensive. Et pour répondre à votre question, non, le gouvernement français est parfaitement au courant dans les détails les plus spécifiques de la situation sur le terrain. C'est juste que, comme je le disais auparavant, c'est une classe politique qui, soit pour des raisons d'avancement personnel, doit exercer ou respecter une certaine ligne, c'est une ligne pro-sioniste en France, en tout cas.
Quelle raison personnelle vous citez, enfin vous parlez, M. De Vollet ?
Pour moi, il y en a deux, il y en a trois. Ça peut être des raisons purement idéologiques où ils sont en accord complet avec le projet sioniste dans la région. Deux, ça peut être des chantages, parce qu'on sait maintenant par les réseaux extrêmes que le Mossad a intrigué toutes les classes politiques occidentales depuis des décennies à ramasser des dossiers sur tous ces gens-là et s'est servi des plus vulnérables pour les élire, à financer leur campagne, les mettre en place afin qu'ensuite les politiques menées soient celles qui correspondent à l'agenda sioniste. C'est le deuxième. Et le troisième, je dirais, c'est probablement des dossiers qui portent sur. Comment dirais-je, déclaration qui aurait pu être faite plutôt dans la carrière politique de ces gens. Je pense notamment à Daniel Valls, qui avait pris une position plutôt pro-palestinienne en 2002 lorsqu'il était maire à Évry, et qui, dans les années qui ont suivi, a complètement viré bord. Voilà, pour des raisons donc personnelles, pour des raisons d'avancement personnel et d'ambition politique personnelle.
Oui. Monsieur Hugon, m'excusez. Donc, les intérêts de France sont si énormes d'être si proche d'Israël, donc d'aller jusqu'à ignorer totalement ce qui se passe en Palestine et les cris des manifestants en France même.
Ah ben oui, tout à fait. D'ailleurs, on parle là aujourd'hui de 140 morts, dont 40 enfants. On ne verra jamais un politique en parler à la télévision. Je pense qu'ils ne se sentent pas du tout concernés par le fait qu'il y ait 140 morts. Il y a une indifférence envers la Palestine qui est effrayante. C'est bien d'ailleurs le problème qui va créer cette radicalisation au niveau de cette nouvelle génération et qui risque d'avoir une position extrêmement dur envers Israël et surtout de pouvoir fomenter là des attentats qui vont être extrêmement meurtriers puisqu'on n'utilisera plus des armes mais des virus. Et pour eux, ce sera une question de survie et une question d'honneur de venger un petit peu, même si ce n'est pas une très bonne chose, mais de venger également les morts palestiniens. Et ces morts palestiniens arrivent dans un contexte d'indifférence générale, que ce soit en France ou aux États-Unis. On ne parle jamais des dommages subis par les Palestiniens, ce qui est absolument incroyable aujourd'hui, au 21e siècle, qu'il y ait une telle indifférence.
Monsieur De Vollet, votre position, je vous prie.
Oui, ben écoutez, moi je pense que malheureusement, comme je le disais précédemment, on se dirige vers la suppression totale des libertés et de la fin de la démocratie et donc de la sionisation de l'Occident. C'est la course en avant, la fuite en avant de toute façon, qui a toujours prévalu quant à la façon dont l'État sioniste perçoit son environnement immédiat sécuritaire lorsque le narratif qui lui est imposé est tout d'un coup hors de contrôle. Donc il applique, si je puis dire, la fuite en avant. Et ce qui m'amène à conclure en disant que de toute façon, cet état de fait, cette absence totale de liberté d'expression et surtout cette hypocrisie des classes politiques occidentales est presque à la limite qu'un épiphénomène. Le front principal, il est dans la région du Moyen-Orient et c'est la résistance, l'acte de la résistance qui va régler le problème d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas d'autre solution. Une fois que la tête du serpent aura été éliminée, la situation en Occident retrouvera une forme de normalité.
Mais M. Huguen a parlé tout à l'heure que plus on avance, Israël a moins d'influence sur l'Union européenne et des politiques donc, contre donc, de ce qu'il pense d'être juste. Mais vous, vous pensez que dans les années à venir, ça sera le contraire?
Alors oui, moi je pense qu'il y aura une prise de conscience. Elle est déjà présente en France. Hein. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les démocraties européennes ne sont plus des démocraties. La France n'est plus une démocratie, c'est une dictature financière. C'est-à-dire que Macron, ce n'est pas un président, c'est un homme de paille qui est manipulé par des financiers, mais lui, personnellement, il n'a aucune conviction politique. Il suffit de le regarder physiquement pour comprendre que vous avez un homme qui a le charisme d'une boîte de conserve. Donc on ne peut pas prendre cet homme pour un président. Ce n'est pas de Gaulle. Donc obligatoirement, nous aurons des politiques qui seront, depuis d'ailleurs plusieurs décennies maintenant, des politiques qui sont aux ordres des financiers. Donc aujourd'hui, ce sont des intérêts économiques qui dirigent le monde et qui dirigent bien sûr la politique de l'Occident. Alors comme je vous le disais, cette lueur d'espoir, c'est qu'il y ait cette prise de conscience. Mais je pense qu'elle va petit à petit se mettre en place. Il faut malheureusement beaucoup de temps pour faire évoluer les choses, mais les choses vont évoluer. Il est clair qu'aujourd'hui, même si Israël continue de massacrer des Palestiniens, il ne peut plus le faire dans une totale impunité. Et ils le font encore aujourd'hui parce qu'ils bénéficient du soutien du monde occidental, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union européenne. Mais avec les difficultés que nous allons connaître en Europe et dans le monde occidental d'une manière générale, puisqu'on est très proche aujourd'hui d'un effondrement financier général, nous n'aurons plus les moyens de soutenir cette mauvaise politique au Proche-Orient. Et c'est bien là l'espoir de la Palestine et des Palestiniens qui veulent se jouer afin que les Palestiniens puissent avoir une partie de territoire et avoir un pays indépendant.
Oui. Monsieur Arnaud Develet, un dernier mot pour terminer. Comment les choses vont évoluer à votre avis?
Je pense qu'elles vont évoluer par rapport à, comme je le disais, la discipline et la patience et la persévérance et la synchronisation des forces de l'axe de la résistance. Avec, et je soulignerai, on a appris aujourd'hui, d'ailleurs, hier, enfin, il semblerait émerger, en tout cas, que les Américains ont livré des batteries de missiles patriotes donc aux sionistes les derniers jours, ce qui laisse entendre que le dôme de fer en lui-même, c'est un pacotille. Et une enquête est actuellement en cours par les puissances, le Conseil de sécurité, pour vérifier si c'est bien le cas. Si c'est bien le cas, l'ambassadeur à l'ONU de la République populaire de Chine a déjà annoncé qu'elle prendrait acte de cet état de fait et agirait de manière proportionnée. Donc ça veut dire que la résistance, plus le temps passe, va pouvoir compter sur le soutien chinois et probablement le soutien russe aussi, pour des raisons évidentes par rapport à la présence de dans la région, mais aussi parce qu'à un moment donné, de toute façon, il va falloir que l'ordre international et le droit international soient respectés une fois pour toutes et que les droits des populations à vivre en paix, ne pas être massacrés, le soient aussi. Donc je pense qu'on se dirige vers une confrontation tôt ou tard, c'est inévitable et souhaitable quelque part.
Arnaud Develet, juriste international depuis Damas, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci à M. Philippe Huguen, reporter de guerre depuis Paris, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. L'Algérie continue de soutenir le peuple palestinien contre les attaques israéliennes par la voix de son ambassadeur permanent auprès des Nations Unies, qu'il a déclaré dès qu'il est inacceptable de tenir les Palestiniens pour responsables de l'escalade de la violence. L'ambassadeur permanent d'Algérie auprès des Nations Unies, Sofiane Mimouni, a déclaré tenir le peuple palestinien responsable de la violence est inacceptable, et voué à l'échec, soulignant que la récente escalade est le résultat direct de la politique d'oppression des forces d'occupation israéliennes qui sapent la paix et l'établissement d'un État palestinien. Il a appelé à adopter des mesures pratiques pour mettre fin à la violence et à utiliser des moyens diplomatiques pour abolir les mesures illégales prises par les autorités de l'occupation israélienne. Le responsable des relations au sein du comité de secours du peuple palestinien en Algérie, Karim Reski, a révélé à la chaîne satellitaire libanaise Al-Mayadin qu'une mission algérienne de secours médical se rendrait à Gaza, indiquant qu'il existe un plan pratique élaboré pour de soins les victimes de l'agression israélienne dans toute la Palestine et qui a été approuvé par l'association des oulémas musulmans et autres associations algériennes humanitaires. Pour sa part, l'organisation des avocats algériens a annoncé le lancement d'une initiative visant à poursuivre en justice les dirigeants de l'occupation israélienne devant les tribunaux internationaux en coordination avec l'organisation des avocats arabes et l'organisation des avocats palestiniens. L'Algérie a annoncé plus qu'elle se tenait aux côtés du peuple palestinien dans sa lutte contre l'occupation israélienne. Une campagne de solidarité et de soutien à Al-Quds au peuple palestinien a été lancée sous le slogan Al-Quds main dans la main contre les tentatives de déplacement et les violations continues de l'occupation israélienne à Al-Quds occupée en particulier dans la mosquée Al-Aqsa et le quartier de Sheikh Jarrah. Le ministère tunisien de la Défense a annoncé qu'il se prépare à envoyer une mission médicale spécialisée des secours humanitaires et médicaux au profit de la population de Gaza en Palestine. Dans un communiqué, le ministère tunisien de la Défense a précisé que cette mission ainsi que l'envoi des aides médicales ont été décidées en étroite coordination avec les différentes structures concernées par l'intermédiaire de la Direction générale de la Santé militaire. D'après le ministère de la Défense, cette aide sera transportée à bord de deux avions militaires, sans pour autant mentionner la date de l'envoi de cette mission ni le lieu de l'atterrissage des deux appareils militaires. Le ministère tunisien de la Défense a simplement souligné que l'envoi de la mission médicale s'inscrit dans le cadre de la solidarité de la Tunisie avec le peuple palestinien frère et sur instruction du président de la République, commandant suprême des forces armées, Kais Saied. Mauritanie, des milliers de manifestants pour la Palestine. Des milliers de personnes ont participé mercredi à Nouakchott à une manifestation pour dénoncer le massacre des Palestiniens par Israël. La marche organisée à l'appel de partis du pouvoir et de l'opposition et d'organisations de la société civile s'est déroulée sans incident du centre-ville au siège du programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans la capitale mauritanienne sur une distance de 5 kilomètres. Massacre sans précédent, pouvait-on lire sur une pancarte brandie mercredi par les manifestants à Nouakchott, en nombre en fait de plusieurs personnes. Et dans un texte remis aux responsables du PNUD à Nouakchott à la fin de la marche, les organisateurs appellent l'ONU à prendre ses responsabilités face à ce massacre d'enfants, de femmes et de vieillards sans défense et à sanctionner les criminels israéliens. Hâte au massacre d'innocents, non au nettoyage ethnique, tous pour la défense de la Palestine, ont scandé les manifestants lors de la marche encadrée par la police. La Mauritanie, pour rappel, a rompu ses relations diplomatiques avec Israël en 2009. Le ministre chinois des Affaires étrangères a appelé tous les pays capables de fournir d'urgence des vaccins contre la COVID-19 à l'Afrique lorsqu'il présida un débat public du Conseil de sécurité des Nations Unies par liaison vidéo. La communauté internationale doit fournir une plus grande aide en matière de fourniture de médicaments, de technologies, de financement pour lutter contre la pandémie, notamment sous la forme d'assistance non remboursable, d'approvisionnement préférentiel, de transfert de technologies et de production coopérative afin d'assurer que le vaccin soit accessible à un coût abordable en Afrique, a-t-il indiqué. Face à la pandémie inédite depuis un siècle, la Chine et l'Afrique sont disposées à lancer conjointement une initiative de partenariat pour soutenir le développement de l'Afrique, a déclaré le chef de la diplomatie chinoise. Il a appelé la communauté internationale à renforcer de son soutien pour l'Afrique dans les domaines tels que la lutte contre la pandémie, la reconstruction post-pandémique, le commerce et l'investissement, l'allègement des dettes, la sécurité alimentaire, la réduction et l'atténuation de la pauvreté, la lutte contre le changement climatique et l'industrialisation. La Chine invite plus de pays et d'organisations internationales, notamment les partenaires traditionnels de coopération d'Afrique, à rejoindre cette initiative, à adhérer au principe de diriger par l'Afrique sur un pied d'égalité et dans un esprit d'ouverture, à renforcer la coordination et la coopération, à s'engager au véritable multilatéralisme en vue de rassembler une force puissante pour soutenir le développement de l'Afrique, a noté le ministre chinois des Affaires étrangères. Burkina Faso. Le Premier ministre promet de corriger les dysfonctionnements dans le système de sécurité. Le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré a reconnu devant les députés que son gouvernement était conscient des dysfonctionnements du système de sécurité du pays et qu'il travaillait à corriger cela. Nous sommes conscients des dysfonctionnements qui persistent dans notre système de sécurité nationale, mais nous travaillons à les corriger dans le souci d'accroître l'efficacité de nos unités combattante, a-t-il dit à l'Assemblée nationale. M. Dabiré a admis que l'année 2020 avait été une période difficile sur le plan sécuritaire en raison de la persistance des attentats meurtriers perpétrés par les groupes terroristes au Burkina Faso. Pour y faire face, le gouvernement a poursuivi le renforcement des moyens logistiques et matériels des forces de défense et de sécurité FDS dans le cadre de la loi de programmation militaire 2018-2022, a-t-il noté. Nous avons également repositionné nos unités combattantes sur le terrain dans le sens d'améliorer leur occupation du territoire national tout en travaillant à renforcer leur coordination et leur complémentarité, a-t-il à ajouter. La Banque africaine de développement s'engage à soutenir la Côte d'Ivoire pour une meilleure sauvegarde environnementale. Des experts de la Banque africaine de développement BAD ont exprimé à Abidjan l'engagement de l'institution à la Côte d'Ivoire pour une meilleure sauvegarde environnementale. Lors d'une rencontre à Abidjan, le directeur général adjoint de la BAD pour la région de l'Afrique de l'Ouest, Joseph Maredesial Ribeiro, a insisté sur la mise en œuvre et le suivi des instruments de sauvegarde environnementale. Il a réitéré l'engagement de la Banque panafricaine à soutenir les actions de développement de la Côte d'Ivoire. Selon lui, la problématique des sauvegardes environnementales et sociales constitue un plan important du développement du pays. Pour sa part, le ministre ivoirien du plan et du développement, Nahua Yeo, les questions de sauvegarde environnementale et sociale constituent un outil stratégique aussi bien pour la BAD que pour le gouvernement ivoirien. Elles permettent d'identifier les risques, de réduire les coûts du développement et d'améliorer la durabilité des projets, favorisant ainsi le bien-être des populations et la préservation de l'environnement, a-t-il expliqué. Eh bien, chers amis, si touche à sa fin cette émission, merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.